première.
Oui.
Oui.
22h, 23h. Par où dire ?
Pascal Tison.
Dis-moi, par où dire ?
Quand on réfléchit à l'histoire de l'hôpital Notre-Dame à la Rose, c'est à la fois un lieu qui, de par sa structure matérielle et son histoire, est forcément marqué par une forme de finitude. C'est un lieu qui est créé à un moment, c'est un lieu qui naît au XIIIe siècle, avec une mission à remplir, accueillir les pauvres et les malades. Mais cette mission à remplir, on a l'impression aujourd'hui que c'est une mission qui ne se terminera jamais. Parce que on a peut-être pu vivre dans l'idée, dans l'espoir, dans le rêve qu'un jour, un hôpital comme celui-ci, fondé au Moyen-Âge, n'aurait plus de raison d'être, parce que le monde aurait tellement bien évolué qu'il n'y aurait plus besoin de lieux comme celui-ci. Or, pour le moment, force est de constater que dans nos sociétés, le sens de la mission d'un lieu d'accueil des pauvres et des malades, d'un lieu d'accueil des pèlerins, d'un lieu d'accueil des migrants, c'est un sens qui fait vraiment encore terriblement question dans nos sociétés.
De Lessines à la Louvière, de l'hôpital Notre-Dame à la Rose au centre Keramis.
Et donc, ce modèle d'hôpital médiéval, avec sa finitude, avec sa fondation, avec l'idée qu'un jour sa vie s'arrêtera, avec la présence de toute une série de vies de religieuses hospitalières, qui elles-mêmes sont marquées par la finitude, puisque elles-mêmes mourront un jour, mais seront remplacées par d'autres. Et donc, la notion d'infiniment, comme aimait à le souligner Alain, cette notion d'infiniment, elle est immédiatement liée, elle est immédiatement concomitante à la notion de finitude. Et peut-être que la parade qu'avaient trouvée les religieuses hospitalières, c'est celle de la vie communautaire. Parce que cette vie de communauté, finalement, rend le lieu et rend la communauté, en quelque sorte, infinie. Et cette communauté, si elle se termine chaque fois que quelqu'un meurt, elle recommence chaque fois que quelqu'un prête de nouveaux serments. Et donc on a cette dualité, cette apparente opposition entre la finitude de chacune des vies qui se déroule ici et en même temps la notion d'infiniment, parce que quand une vie s'arrête, une autre prend le relais en quelque sorte.
De Lessines à la Louvière, de l'hôpital Notre-Dame à la Rose au centre Keramis. À Lessines, à l'hôpital Notre-Dame à la Rose, infiniment, jusqu'au 29 mars. Avec Raphaël De Bruyne.
C'est un lieu qui, évidemment, au-delà même simplement de l'idée religieuse, évidemment, de la non-finitude de Dieu, mais au-delà de cette idée-là, il y a peut-être encore plus extraordinaire et plus riche, c'est l'association des finitudes, des vies humaines qui se sont déroulées ici, qui donne à sentir une part peut-être de l'infini.
Avec Raphaël De Bruyne, Laurent Quillet, Sophie Langor et Alain Bornin.
Ben voilà, chacun touche aussi peut-être à sa manière à l'évocation d'un temps vécu ou d'un instant vécu, d'une pause sur une image ou même dans une vidéo. C'est un temps vécu qui ne se reproduira pas. Et pourtant, grâce au titre, même si on touche entre parfois la vie ou on évoque la mort, ben là on touche à l'éternel grâce à ce mot qui est justement très fort. Et en même temps, ça nous fait écho que on sait très bien qu'une œuvre, même après l'artiste, même après le vécu, la vie de l'artiste, l'œuvre peut continuer à vivre. Et même une fois que l'œuvre ne sera plus de ce monde, tout se transforme, quoi. On était poussière d'étoiles et on le redeviendra. Il y a ce rapport à l'éternel qui finalement peut s'accrocher à tout le monde.
Avez-vous des souvenirs de l'Expo 58 ?
Absolument.
Cette place de Belgique.
Les Kaliskis.
Mon œuvre.
Allez voir ça.
Une garden party très contemporaine.
Merci d'être là.
Aschenbach, Lino Polegato.
Dans mon histoire de ma peinture,
authentique, tantum, tantum, tantum,
le monde invisible.
que quand on voit effectivement les symboliques qui sont présentes au sein du musée, il y a bien sûr toutes les symboliques de représentation de la Trinité, il y a toutes les symboliques de représentation des saints et des saintes, il y a toutes les symboliques de représentation du corps du Christ, ce corps du Christ qui a pris forme humaine et qui donc a en quelque sorte momentanément quitté sa parure d'infini, pour aussi endosser à un moment un habit de finitude. Et donc, il y a aussi cette image-là, et il y a aussi effectivement ce lien entre la chaîne humaine, ce lien entre le masculin et le féminin, ce lien entre l'homme et la femme, cette image difficile, compliquée à représenter, d'un Christ, d'un Fils de Dieu fait homme, d'un Verbe qui s'est fait chair. Et donc, c'est cette image qu'on retrouve à un des tableaux très particuliers du musée, où on a ce Christ qui est porteur à la fois de caractéristiques de virilité masculine et de fécondité féminine, et donc ce Christ qui est l'époux mystique des religieuses, et cette image du Christ qui va traverser en quelque sorte le temps, et cette image du Christ qui est une forme évidemment de tentative de représentation matérielle d'une notion d'infini, et qui a été parfois interprété très, très curieusement, qui a fait l'objet de beaucoup de discussions, puisque ce Jésus fait homme, est-ce que finalement il était réellement fils de Dieu? Est-ce que finalement il n'était peut-être qu'un prophète et un homme? Ça a donné dans l'histoire de l'Église et dans l'histoire de la religion chrétienne des débats et des hérésies, ou en tout cas des visions qui ont été considérées comme des hérésies par la majorité. Mais je suis toujours étonné et surpris combien pour nos contemporains, toute cette dimension là de toute l'évolution historique du fait religieux, combien tout ça est aujourd'hui oublié, et pourtant combien c'est fragile, et finalement combien le message qui est le message admis dominant aujourd'hui, combien il est passé à travers un tamis, à travers des filtres, à travers des entonnoirs, et combien il s'en est peut-être fallu de peu dans le lien politico, diplomatico, economico, guerrier entre les États et l'Église, combien il s'en est fallu de peu pour que peut-être aujourd'hui ça ait été une autre vision de ce Christ et donc de l'infini de la religion qui aurait pu triompher et être ce que nous considérerions comme la doxa aujourd'hui.
Ce que Raphaël de Brun vient de dire, ce sont des questions qui vous ont préoccupé tout au long de ces installations que vous avez faites au sein de ce musée.
Par rapport en fait à l'espace, aux peintures et à toute la collection qui se trouve dedans, c'est déjà un lieu qui est positivement très chargé.
Laurent, qui est ?
Et je sais que même des œuvres que là j'installe, que j'ai déjà pu montrer, elles ont une nouvelle lecture, mais totale. C'est vraiment pour moi-même un autre regard. J'expose une photographie comme ça quand je suis dans les bras de ma maman, et ça se trouve, par rapport à la collection même de l'hôpital, juste à côté d'une peinture, j'ai plus le titre en tête, mais qui est en fait exactement le même rapport. C'est une fois de plus quelque chose qui est un peu éternel, quoi. Il y a des choses qui reviendront dans tous les temps, et dans 500 ans ce sera pareil, et il y a 500 ans c'était pareil. C'est pareil pour une autre pièce où je fais des embrassades, je dis au revoir à ma famille depuis 2015, je filme tous les au revoir. Mais le au revoir, c'est notre manière de faire aujourd'hui comme ça. Je suis français, donc je fais deux bises, mais chacun a sa signature. Si j'étais belge, ça aurait été une bise. Mais c'est un au revoir, en fait, de tout temps et à jamais. Il y aura aussi des quittances comme ça. À un moment donné, on passe un temps avec quelqu'un et voilà, ça doit finir.
À Lessines, à l'hôpital Notre-Dame à la Rose, infiniment, jusqu'au 29 mars. Avec Raphaël de Brun, Laurent Quillet, Sophie Langor et Alain Bornin.
C'est une évidence de choisir ce mot, parce qu'à l'hôpital Notre-Dame à la Rose, où il y a toutes ces questions existentielles sur qui sommes-nous, notre place ici-bas, la relation à la croyance, nos difficiles relations à la souffrance, à la maladie, à la mort, etc. Ce mot que j'aime beaucoup, je pense que dans la langue française, il y a comme ça de très très beaux mots. Par exemple, quand je quitte quelqu'un ou quand je termine un courrier que j'envoie à quelqu'un, je ne termine jamais par au revoir ou bien à toi. Ce sont des formules que je déteste. Je termine toujours par à bientôt. Et je trouve que le mot infiniment, c'est encore mieux. Quand on remercie quelqu'un, dire merci infiniment, je trouve que c'est une formule magnifique. Infiniment, sans fin, plus loin que, au-delà de. Je trouve que ce mot est magique, incroyablement magique et très approprié par rapport à ce qu'on a voulu faire ici et surtout par rapport à ce lieu. Quel beau mot, infiniment.
Ça me questionne aussi par rapport à d'autres photos ou d'autres images que nous avons dans les archives de la collection, parce qu'on disait tantôt par rapport à ces religieuses, par rapport à cette vie de femme, par rapport à cette maternité, ce qui est aussi un peu extraordinaire à imaginer et à penser, ou en tout cas qui mérite réflexion, c'est aussi que parmi les religieuses de la communauté, certaines ont eu un diplôme de sage-femme. Et donc, il y a eu des religieuses accoucheuses au sein de la communauté au XXe siècle. Et donc, nous avons des photos où on a sœur Elisabeth, qui est la dernière sage-femme de la communauté, qui est là triomphante, tenant dans ses bras les derniers petits jumeaux qui sont nés ici dans la maternité de l'hôpital. Cette photo, elle exerce sur moi un pouvoir de fascination, parce que se dire que cette femme dont on pourrait s'imaginer qu'elle a quitté le monde et qu'elle a donc renoncé à tout commerce avec le sexe masculin, eh bien cette femme, en même temps, elle a, dans sa vocation, choisi de devenir sage-femme. Et donc elle aura passé sa vie elle-même à accoucher d'autres femmes, tout en sachant qu'elle-même, elle n'accoucherait jamais. Ça mérite, je ne sais pas si c'est admiration, questionnement, réflexion, mais en tout cas au moins réflexion et à nouveau une forme de doute par rapport à cette notion. Elle, plus que quiconque, elle savait la forme de finitude de son existence matérielle, puisqu'elle ne transmettrait jamais ses gènes ou ses chromosomes. Et en même temps, elle a passé sa vie à permettre à d'autres de le faire. Hein, évidemment, sans doute qu'elle, elle transcendait tout ça, parce qu'elle était certaine qu'évidemment, la mission qu'elle remplissait sur Terre pourrait lui permettre d'accéder au paradis. Mais malgré tout, je me souviens de témoignages de sœur Maria Médée, la dernière religieuse de la communauté qui avait connu l'hôpital en vie, qui est maintenant décédée il y a 2 ans. Et donc, à la fin de sa vie, quand on la questionnait, quand on lui disait « Ma sœur, est-ce que c'était toujours évident pour vous, cette vocation religieuse ?» Et elle nous répondait, mais non, pas du tout, pas du tout, pas du tout. À un moment, j'ai ressenti un appel et j'ai surtout vu le modèle des autres sœurs, j'ai surtout vu le bien qu'elles essayaient de faire autour d'elles, et je me suis dit, ce serait bien pour moi de faire ça aussi. Et donc finalement, ce qui ressortait au-delà de tout pour elle à la fin de sa vie religieuse, à quelques mois de son décès, c'était de dire que finalement, sans doute, une part fondamentale de ce qui avait été sa vocation, c'était la volonté de faire du bien aux hommes. Et donc moi, ça m'a toujours frappé. Et ça a toujours été un moment, j'ai souvent les larmes aux yeux quand j'en parle, parce que c'était un moment assez extraordinaire à vivre avec elle, parce que son discours, son analyse à la fin de sa vie, après avoir passé presque 60 ans dans ces lieux, c'était finalement de ramener une part essentielle de son message à l'idée que sa vie sur Terre, ça avait été d'essayer de faire du bien aux autres.
Cette réelle volonté de venir y placer des œuvres, mais vraiment en dialogue et en résonance avec le lieu. Donc c'est ainsi qu'on a parfois des œuvres qui sont volontairement placées pour être une grande présence physique tout en étant très discrète. Ce n'est pas un paradoxe, mais elles s'intègrent tellement par rapport au lieu, elles sont tellement en dialogue avec les éléments habituels du lieu que le visiteur pourrait passer à côté de ces œuvres, de ces propositions d'art contemporain, sans les percevoir. Mais c'était vraiment une volonté, non pas un risque que l'on prend, mais une réelle volonté. D'ailleurs, il n'y a pas de cartel, il n'y a pas d'indication. C'est vraiment une réelle fusion, interaction avec les éléments du lieu. C'est ainsi qu'on peut trouver, par exemple, voilà, ici, dans cette cellule de religieuse, il y a posé sur cette table de chevet cette pomme en or, sur un miroir. La pomme, on le sait, mais symbole fruit défendu de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, qui renvoie toute une série de lectures potentielles pour le visiteur, sachant qu'on est là dans cette cellule religieuse spartiate, dépouillée, où elles étaient confrontées finalement à peu de choses et à peut-être l'essentiel pour elles.
Bougies qui sont faites de cire,
oui.
Cire qui sont faites par les abeilles,
oui.
Le cycle se boucle.
On pourrait imaginer que le cycle se boucle.
Raphaël de Breuil C'est vous qui avez appelé Alain Bornin ?
Oui.
En tout cas, en choisissant de montrer cette image-là, ce tableau-là, ici, maintenant, de part et d'autre, il y a deux anciens tableaux de deux gisants, deux anciens maîtres directeurs sur leur lit de mort. Et donc, au milieu, ce tableau très contemporain dans sa facture, représentation assez photographique d'une belle fleur, ce lys ouvert, épanoui, symbole de fertilité, symbole de la beauté éphémère, comme toutes les fleurs, la vie qui est là, entre deux représentations peinture ancienne de plutôt de la vie qui s'en va, et mon tableau c'est plutôt effectivement la vie présente, fugace, particulièrement éphémère, et puis toutes ces petites sphères de couleurs très vives, bon, qui peuvent effectivement symboliser un focus, un point de vue sur une image qui viennent un petit peu oblitérer certaines parties de l'image, mais qui peuvent aussi renvoyer à des bulles de vie aussi.
Un lien qui existe depuis longtemps entre le musée et Alain. Et donc, on avait travaillé avec des artistes en solo, on avait travaillé avec des duos. Hein. Quand Alain est venu me dire, tiens, ici, moi, j'ai une idée, une inspiration pour travailler peut-être avec un quatuor, pour travailler sur la notion d'infiniment. Tout de suite, on s'est dit, oui, c'est quelque chose de pertinent et d'intéressant dans la démarche qui est la nôtre, de cet accueil de l'art contemporain au sein de la collection ancienne, de cette manière de vouloir essayer toujours de ne pas être simplement qu'un lieu où on expose des objets historiques dans des salles de collection permanentes. Et donc le dialogue qui pouvait exister aussi entre ces quatre artistes et entre leur manière d'exprimer cette notion d'infiniment et la collection historique, c'était séduisant. Et donc c'est pour ça qu'on a donné carte blanche en quelque sorte à Alain Bornin pour ce travail. Oui.
Je m'intéresse particulièrement au patrimoine religieux, dans le sens où la déchristianisation de la société, je me rends bien compte qu'il y a une perte de connaissances, à quoi ces œuvres font référence, et je m'amuse un peu de cette opacité, et donc j'en profite pour les regarder d'un regard assez personnel et non scientifique.
Petite question à la Bornin, ces artistes que vous avez rassemblés avec vous-même, y a-t-il une ligne rouge qui les rassemble tous l'un à l'autre ?
Probablement, sans aucun doute, la qualité de leur travail. Alors, pourquoi est-ce que j'aurais proposé de faire cette exposition à quatre ? Je connaissais leur production, énormément de respect pour leur production, et parce que de toute évidence, ils avaient leur place ici. Ils avaient des productions qui pouvaient entrer en résonance avec le lieu et amener des questionnements, des réflexions supplémentaires par rapport à ce lieu, si tant est que ce lieu a encore besoin qu'on lui ajoute des questionnements et des réflexions.
On m'a prêté des sculptures, donc notamment toute une série de statuettes en porcelaine. J'ai pris des photos autour de ça qui sont présentées dans la chapelle sous forme de slideshow où je tiens ces objets dans mes mains.
Sophie Langlois.
Alors, toutes ces statuettes ont fait l'objet de moulages, mais donc pas de leur forme extérieure, mais plutôt de leur forme intérieure. Donc en fait, toutes les sculptures, en général, sont évidées à l'intérieur pour éviter à la cuisson de la céramique qu'elle n'explose, ou alors les pièces en bois, etc., pour éviter qu'elles se fendillent ou qu'elles soient trop lourdes, voilà. Et donc moi, je tire profit de cette espèce de creux à l'intérieur, des sculptures anciennes, pour les faire littéralement accoucher de nouvelles formes. Et donc, il y a un moulage qui est réalisé d'abord au silicone, puis des contre-moules, et puis on refait alors une nouvelle pièce. Et je m'amuse un peu du décalage formel entre la nouvelle forme et la sculpture d'origine, dans le sens où ces nouvelles sculptures sont un peu, on pourrait qualifier ça de cuir, c'est un peu étrange, singulier, et en tout cas, ça ne respecte pas du tout les codifications très précises qui déterminent l'esthétique, justement, de ces pièces très codifiées, mais dont on perd un peu le sens. Et donc, c'est amusant de voir que, pour le futur, on a des nouvelles formes qui émergent, donc c'est un peu métaphorique. Je travaille beaucoup sur la question du genre aussi, et je remarque dans ces nouvelles formes, bon, c'est des formes qui viennent de l'intérieur, évidemment je me sers de tout ce, cette espèce de mythe de la féminité matricielle, de donner naissance à des sculptures, de la création, etc. Et c'est amusant parce que ces formes, on ne sait pas vraiment leur donner un genre, on ne sait pas dire si c'est un personnage féminin ou masculin, ce sont des formes phalliques mais aussi un peu vaginales comme ça, ou vulvaires, on ne sait plus trop. Et donc je m'amuse un peu de ce brouillage des catégories traditionnelles, intérieures, extérieures, féminin, masculin, le passé, le futur, puisqu'il y a beaucoup de pièces comme ça qui évoquent, notamment celles que j'ai faites en bois, qui évoquent beaucoup l'art primitif ou des choses qui sont dites primitives. Il y a toute la notion de nature-culture aussi, puisque la forme de la sculpture traditionnelle est vraiment, représente vraiment la culture, et puis cet intérieur est brut et donc évoque une sorte de nature, mais qui est créée par la culture. Enfin, je m'amuse de tous ces jeux autour des catégories. Et dans le même ordre d'idées, je me suis intéressée à deux tableaux à l'huile anonymes, donc du XVIe siècle. On m'a donné les photographies qui ont été prises de ces tableaux et qui représentent Marie-Madeleine, repentante et consciente de sa vanité dans la grotte de Sainte-Baume. Et donc, j'ai repris ces tableaux et infographiquement, j'ai effacé en fait les personnages féminins. Donc, il y a deux tableaux, les deux personnages de Marie-Madeleine et tous les éléments allégoriques aussi sont effacés. Et en fait, ici, c'est amusant parce qu'il ne reste que le décor, en fait. Donc, il n'est plus du tout religieux, mais le décor montre une sorte de cadre conceptuel qui montre l'univers de la grotte, l'intérieur, l'extérieur. Et donc, voilà, c'est peut-être un paysage à déserter pour Marie-Madeleine. Voilà, on sait aussi la question du stigmate sexuel, Marie-Madeleine, la pute, la madone, enfin, toutes ces questions m'intéressent. Et j'ai travaillé aussi ces questions en reprenant le Christ aux outrages, qui est un buste du XVe siècle, là, de la collection de l'hôpital Notre-Dame à la Rose. Quand j'ai vu ce buste d'un Christ qui a le visage tourné de côté, j'ai repensé une pièce de Danvaux que j'avais vue à Venise en 2015, une pièce qui travaille un peu sur l'insulte, et l'insulte notamment sexuelle, puisque c'était « Ta mère va sucer des bites en enfer ». Et donc ici, j'ai refait une copie, une reprise de la pièce de Danvaux, mais à la place de cette pièce, qui est un collage sculptural en fait, où Danvaux a pris le visage d'une vierge du Moyen-Âge, qu'il a collé en dessous d'une plaque de contreplaqué sur les pieds d'un enfant, une sculpture classique en marbre. Et donc moi, j'ai repris une photo alors d'une Vénus classique et j'ai mis le buste du Christ dessus. Et donc cette pièce est visible. Bon, évidemment, il faut raconter un peu l'histoire pour la comprendre. Et j'ai inversé alors le titre, c'est « Ton fils », alors en référence au Christ, « Ton fils va lécher des chattes au paradis ». Et donc à chaque fois, un changement de catégorie. Et donc on voit qu'ici, il y a une équivalence au niveau de l'insulte sexuelle. On sait bien que le stigmate se réalise de façon différenciée en fonction du genre et qu'on ne critiquera pas une femme de la même manière qu'un homme, par exemple. Et ici, d'inverser, c'était un peu de façon amusante, reprendre le propos de Danvaux qui travaille beaucoup sur la dimension religieuse comme espace de conquête, de domination, etc. Et ici, j'ai voulu reprendre un propos féministe alors sur cette pièce-là. Pour clôturer mon travail de l'exposition. C'est la dernière pièce qui n'est pas beaucoup commentée. Et donc, c'était pour montrer que cette espèce de double standard sexuel, et ici, en le changeant, ça a dû quand même une positivité et quelque chose pour une conception de la sexualité qui ne soit un peu dénuée de violence.
Nous sommes de générations différentes. Entre Laurent Quillet et Pascal Bernier, il y a quand même une différence d'âge. On a aussi une présence de Sophie avec tout son engagement féminin.
Très très peu changé entre le moment où les dernières religieuses ont été soignées dans cette infirmerie des sœurs et le moment où nous l'avons figé dans sa structure muséographique d'aujourd'hui. On a peut-être simplement accentué parfois certains éléments de décor pour un peu bien être sûr que le visiteur comprendrait que dans cette infirmerie, pendant très longtemps, les soins donnés aux sœurs étaient plus des soins spirituels et de l'âme que des soins médicaux. Mais sinon, on est effectivement sur un décor, sur des lits, sur des tables de nuit, sur la présence d'armoires à reliques au-dessus des lits accrochés au mur, et sur les images de couronnement de la Vierge, sur des images de la représentation de la bonne mort, et sur les images du lien, de la relation entre femme et Christ. Avec deux tableaux emblématiques à mon sens, Jésus au puits avec la Samaritaine, c'est presque une scène galante à la manière du 18e, et de l'autre côté, Jésus apparaissant à Marie-Madeleine le matin de Pâques au jardin de Gethsémani, et là c'est Jésus qui révèle la résurrection à Marie-Madeleine. Il y aurait tellement à dire sur le personnage de Marie-Madeleine. Et c'est un Christ qui est traité comme le nouvel Apollon, parce qu'il est représenté là presque comme une divinité grecque ou romaine. On a là tous ces liens qui sont là. On a aussi évidemment le grand crucifix sur la cheminée. Et puis alors on a les interventions des artistes qui ont travaillé pour cette exposition infiniment, et les interventions qui viennent vraiment ici apporter un sens extraordinaire et remarquable au dialogue entre ce que eux ont pu créer pour cette salle et le vécu, l'atmosphère, l'ambiance de cette salle.
Ce sont des images en mouvement qui sont déployées au pied de lit, me semble-t-il, qui
oui,
sont
c'est
des
un...
au revoir, qui sont des actes de tendresse.
Ouais, c'est en fait uniquement des au revoir, parce qu'on pourrait sans son peut-être les prendre pour des bonjours aussi, vu que l'acte est le même.
Laurent qui est.
Mais ouais, il se fait qu'en fait, c'est des au revoir, c'est une nécessité que j'ai depuis avril 2015. J'ai commencé ça à ce moment-là. Et où en fait, je supportais plus, comment on pourrait dire, des au revoir manqués. Comme pour la photo tout à l'heure avec ma maman, c'est le sentiment de déconsidération, peut-être l'expression d'un manque de contact que moi j'ai ressenti. En tout cas, c'est très personnel en fait. J'ai quatre sœurs et leur ressentiment n'est pas du tout le même que le mien. Mais ici, là, enregistrer tous les au revoir, c'est aussi jouer peut-être et déjouer la mort, de tenter de glorifier des moments futiles, de redonner conscience que chaque au revoir peut être le dernier.
On connaît un petit peu ce film ou cette expression qui nous dit que, paraît-il, au moment de la mort, on perd 21 grammes. Ben, c'est peut-être un peu des bulles de vie qui vont, qui viennent, un peu comme ces petites bulles de savon aussi qu'on souffle quand on est enfant et qui représentent aussi quelque chose particulièrement éphémère. Donc au-delà de tout ça, oui, c'est un questionnement sur la vie, sur la beauté de la vie. Et faut-il le rappeler, elle est particulièrement fugace. Mais elle peut être aussi infinie si nous la vivons d'une certaine manière. Sinon, on la vit avec beaucoup d'intensité, avec beaucoup de dialogue, avec beaucoup d'amour. La vie, même si elle est fugace, peut devenir, prendre des allures de l'infiniment.
Mais je pense que le lys est un symbole de royauté, n'est-ce pas ?
Oui, c'est une fleur qui est associée évidemment au lys de France, bien sûr, mais c'est aussi une fleur qui est associée à la femme et aussi donc à la Vierge, la rose, le lys. Hein, dans les Annonciations, on retrouve effectivement le lys qui est présent dans les peintures représentant l'Annonciation, et donc c'est une image à la fois, oui, de féminité, de fécondité également, tout ça est lié. Et oui. Ce qui est frappant aussi, c'est que quand on songe à la pollinisation, ce qui fait qu'il y aura la fertilisation par les insectes, c'est que les insectes sont attirés aussi par les couleurs. Et ici, dans la manière dont Alain Bornin a traité ce sujet et a conçu cette œuvre, elle est en noir et blanc, donc on n'a pas la couleur des pétales. Donc les insectes que nous sommes ne seront pas attirés par la couleur des fleurs, de cette fleur au naturel, mais alors nous sommes attirés par la couleur de ces bulles à la fois bulles de vie, bulles d'éternité ou bien bulles éphémères. Enfin, donc ça, c'était aussi quelque chose qui, moi, me frappait dans le traitement et dans la manière dont je percevais une œuvre comme celle-là.
Christine Chimizou. Donc l'exposition s'intitule « Baïming, les vibrations de la Terre ».
Au centre Kiramis, à la Louvière, Baïming, vibration de la Terre.
jusqu'au 15 mars.
Les vibrations au pluriel et la Terre peut être écrit avec une majuscule ou sans majuscule, puisque ce sont les vibrations terrestres, de la croûte terrestre, mais également de l'argile qui travaille lorsqu'il est cuit.
De Lessine à la Louvière, de l'hôpital Notre-Dame à la Rose, au centre Keramis, par Thierry Genicot. Le monde invisible est soutenu par la Fédération Wallonie-Bruxelles, secteur des arts plastiques.
Baeming est un artiste qui est à la fois peintre, céramiste, laqueur, mais il faut ajouter à cette dimension le philosophe. C'est une personne qui est non seulement inspirée par les philosophes chinois, bien sûr, on y reviendra, mais également qui a beaucoup lu la philosophie occidentale, en particulier Kant et Hegel.
Je ne connaissais pas l'œuvre de Baeming, et j'ai découvert ça sur des toutes petites photos, puisqu'on avait l'inventaire de toutes les œuvres, et puis on s'est posé la question comment les présenter. Vu le manque de moyens, on ne pouvait travailler qu'avec les moyens dont Keramis disposait, donc ce sont en fait tous les socles qui existaient et que nous avons retransformés en trois grandes tables. Ça me semblait évidemment c'est presque de l'installation. C'est comme ça qu'on a commencé par cette grande table avec tous les rouleaux, comme il dit, ce qu'il appelle sa mémoire. Et puis le restant, je voulais les disposer assez concentrés comme des ensembles de paysages aussi. Et donc ces grandes céramiques qui varient de volume, de hauteur, de forme, mais aussi dans leurs décors qui sont tellement particuliers, puisque Baeming, ça je me rendais compte, c'est un peintre avant tout.
Tout ceci marque évidemment son art, et pour bien comprendre, il faut resituer un petit peu Baeming dans le contexte de la Chine et le contexte historique chinois.
Avant de dessiner et avant de peindre, il y a déjà une vision intérieure qui lui permet de voir ce qu'il va faire. D'ailleurs, il le faut, parce qu'avec un pinceau et de l'encre ou un pinceau sur de la porcelaine, il n'y a pas de reprise possible. Donc il faut déjà avoir sa vision intérieure de ce que l'on va faire avant de commencer à poser le pinceau sur la surface.
Baeming est de cette génération qui est née avec la révolution culturelle. Il est né en 1965 et la révolution culturelle commence en 1966. Et donc il va passer, cette révolution, comme vous le savez peut-être, va durer 10 ans. Et il va passer donc sa jeunesse, sa toute jeunesse, dans ce contexte politique extrêmement rigoureux. Et il va avoir durant son jeune âge évidemment une éducation qui va être un peu une éducation pointillée due au contexte politique de la Chine à cette période.
C'est-à-dire qu'au moment où le ministère a commencé à réduire et à ne plus pouvoir continuer à financer ce musée comme les besoins du Keramis le demandaient, si on voulait sauver Keramis, la seule manière c'était de trouver une autre forme de subvention, puisque cette exposition de Baeming était déjà quand même plus ou moins en route. Et donc on a lancé d'abord une pétition qui a recueilli, je crois, 12 ou 15 000 signatures, je ne me souviens plus, c'était au mois de mai. Et suite à cette pétition, on a lancé le crowdfunding, c'est-à-dire que on lance un financement. En fait, crowdfunding, c'est une espèce de un système de banque privée qui permet, via Internet, de récolter rapidement des petites sommes. Et ici, on a quand même réussi à réunir une dizaine de milliers d'euros qui nous ont permis effectivement de financer partiellement la Céno, partiellement le catalogue qui était pratiquement fait à l'époque et qui est très très réussi.
Donc jusqu'à 11 ans, ce qui correspond à peu près à la fin de la révolution culturelle, il est dans ce milieu où il est difficile certainement d'accéder à une culture occidentale en tout cas. Et il va donc se former auprès de son père qui lui donne accès aux grands ouvrages classiques chinois. Et nous allons voir que ses œuvres sont très marquées par ces ouvrages classiques chinois. Ce qu'on appelle les classiques chinois, ce sont les ouvrages du taoïsme, du confucianisme notamment.
Et tout ça demande une concentration qui est une concentration spirituelle. Et le tir à l'arc est un des arts majeurs au Japon, qui est lié au zen, à la pratique du zen.
Christine Samitsu.
Donc il y a une concentration, une intériorité et ensuite une expression. Alors expression en bordant l'arc ou expression en jetant son pinceau sur la surface de la feuille ou de la porcelaine, c'est le même acte. Ça découle de la même réflexion philosophique et de la même concentration.
À partir des années 80, avec la fin du maoïsme et la présence donc au poste politique de Deng Xiaoping, la Chine trouve une ouverture vers l'Occident. Et à partir de cette période-là, donc les ouvrages occidentaux vont pouvoir rentrer beaucoup plus facilement en Chine. À ce moment-là, Bai Ming va avoir un accès plus direct à des photographies d'œuvres d'art de meilleure qualité que celles qu'il avait en main auparavant. Mais le véritable déclenchement, si vous voulez, est la vision qu'il va avoir des œuvres en direct, des œuvres occidentales en direct. Et ceci ne sera qu'à partir de 2001, lorsqu'il obtiendra l'autorisation et l'invitation du gouvernement américain de venir enseigner et de participer donc à des universités aux États-Unis. Là, il sera très marqué par la peinture occidentale. Lui-même est intéressé depuis toujours depuis qu'il a accès aux ouvrages occidentaux, il est très intéressé par la peinture en priorité. En particulier, bien sûr, les post-impressionnistes, mais d'une manière plus récente, par des artistes comme Duchamp et Fontana également, et surtout l'artiste catalan Tapies, qui, donc, par son travail, a un lien direct avec la calligraphie chinoise, et donc, probablement, Bai Ming y retrouve un peu ses sources et une interprétation de ses sources chinoises.
Alors, vous êtes l'architecte du lieu où nous parlons, Keramis, et vous êtes le scénographe de l'exposition. Vous êtes, à part l'artiste que vous n'êtes pas en l'occurrence, vous êtes un peu tout. Et n'y a-t-il pas, pour qui nous écoute, une sorte de question qui se pose ? Comment un lieu aussi beau, aussi prestigieux, aussi coûteux, aussi, se trouve démuni soudain ?
Ce projet Keramis, d'abord, il nous a tenu à cœur, nous, les cinq architectes. Pour nous, ça a été vraiment d'abord une opportunité incroyable de construire ce lieu-ci.
Michel de Vichère.
C'est un lieu qui a mis quand même 6 ans entre le moment de la commande et la réalisation. On a à peu près 6 ans, bon, qui est dû à toutes sortes de délais administratifs, entre autres, mais quand même des constructions relativement complexes, puisqu'on a même travaillé jusqu'au mobilier, jusqu'à la signalétique. Et donc, après ça, on était tellement attaché à ce bâtiment que je me suis dit, et spontanément, auprès du directeur, Ludovic Recchia, j'ai proposé en disant, voilà, moi, je suis prêt à m'investir un peu dans le musée. Et d'une certaine manière, comme ça qu'on a fondé les Amis de Keramis, qui sont censés, avant tout, récolter une série de gens susceptibles de soutenir financièrement, mais pas uniquement financièrement, puisqu'on les réunit par des activités que les Amis de Keramis organisent. C'est ce qui soude un peu un groupe qui permet de fidéliser les amis. Et ici, dans le cadre de l'exposition Bai Ming, Ludovic s'est retourné vers moi en disant, voilà, est-ce qu'au niveau scénographie, on ne sait pas payer un scénographe, est-ce que tu ne veux pas, connaissant des scénographies précédentes qu'on avait fait, puisqu'on a quand même fait quelques-unes, entre autres la dernière, Jean Guibert au Beaux-Arts, mais on a fait deux expositions pour ING, Place Royale, il y a quelques années, donc on avait quand même une pratique scénographique au sein de notre atelier. Et donc spontanément j'ai dit oui, et en plus le défi était quand même non pas inintéressant, en disant voilà, on n'a pas d'argent et qu'est-ce qu'on fait, comment le faire, et c'est un défi. Mais on a senti surtout, moi j'ai ressenti au sein de l'équipe de Keramis, je ne sais pas si c'est parce qu'effectivement on se sent en danger, mais une motivation au sein du personnel qui reste, et un esprit d'équipe et un enthousiasme vraiment qu'on n'obtient pas dans une institution de grande dimension où effectivement cette motivation ou cette culture d'entreprise a disparu. Autant juste après, Keramis a dû quand même licencier 2 personnes, l'ambiance était quand même très 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 tendue. autant je crois qu'on a réussi maintenant, en espérant que ça continue, à retrouver vraiment un esprit dans cette maison. Hein.
Christine Samitsou.
On peut apprécier les œuvres comme on apprécie des œuvres de peinture occidentale contemporaine sans avoir obligatoirement une connaissance profonde de la civilisation d'où est issu l'artiste.
Ces peintures donc à l'encre sont pour lui un moyen d'expression beaucoup plus libre que ne l'est la céramique, parce que évidemment une peinture se réalise dans l'immédiat, une céramique, eh bien il faut la préparer, il faut la sécher, il faut la faire cuire et on n'est jamais sûr du résultat. Donc là, il a un résultat direct avec ses peintures à l'encre.
Alors, ce sont des vibrations évidemment qui sont dues à la nature, hein, puisque la croûte terrestre est en perpétuel changement, mouvement, mais ce sont également les modifications que l'argile va prendre lorsqu'il cuit, lorsqu'il est mis dans le four. L'artiste ne sait jamais quel résultat il va obtenir. L'argile peut craquer, peut exploser, ou bien peut cuire de manière plus uniforme.
Un autre domaine de prédilection de l'artiste, c'est également la laque.
Les gens s'attachent aux apparences.
Daniel de Montmolin.
Alors qu'au-delà des apparences, il y a toute l'intimité de la vie du métier qui est extrêmement complexe et qui s'étire dans le temps.
Baiming a un rôle extrêmement important en Chine, d'une part parce qu'il est novateur dans de nombreuses techniques, mais également parce qu'il forme des étudiants, il est professeur à l'université, il est conservateur de musée également de l'université. Il a la possibilité ainsi de montrer à ses étudiants qui n'ont pas eu la chance d'aller en Occident, de montrer l'évolution de la céramique à travers le monde. Cette évolution qui fait que la céramique, qui était un objet utilitaire, est devenue au fil des années et surtout très récemment, une céramique sculpturale.
Je crois que quelqu'un qui se destine à une vie créative par le biais de la poterie entre dans un temps qui est spécifique.
À vous écouter toutes les deux, j'entends la voix de Daniel de Montmolin que j'ai un jour rencontré avec ce micro.
L'art de la poterie, ce n'est pas un travail rapide, c'est un travail de longue haleine. Pour la raison suivante, c'est que c'est le feu qui nous apprend notre métier. Quand on enfourne une pièce, on ne sait pas ce qui va sortir du four. Donc c'est au défournement qu'il faut observer ce qu'on sort du four. Il faut établir des relations de cause à effet pour voir comment le feu a interprété les matériaux qu'on croit connaître, en tout cas. Parce que ce qui se passe à haute température dans le four échappe à notre compréhension. C'est un autre monde. Moi, je dis volontiers qu'à haute température, on met en route une véritable biologie minérale. Qu'est-ce qui se passe quand on chauffe n'importe quoi? Quand on chauffe de la glace, on obtient de l'eau. Quand on chauffe de l'eau, on obtient de la vapeur. Donc, plus on chauffe, plus on efface les forces de cohésion interne de la matière. Alors, dès le moment où ces forces de cohésion sont libérées, elles se promènent. Il y a une sorte de danse, elles se promènent en fonction de leurs affinités physico-chimiques.
Mais Daniel de Montmolin, on est évidemment dans une certaine spiritualité qui s'exprime différemment.
La matière se réorganise dans le feu jusqu'au moment où on arrête le flux de calories et où tout se fige. Si bien que le résultat final est complètement différent de cet ensemble de minéraux qu'on a proposé au feu au départ.
Daniel de Montmolin est en permanence en constante recherche d'une qualité technique particulière. Il est très inspiré évidemment par les couvertes, les techniques chinoises.
Un autre temps que le céramiste doit vivre, c'est un temps accéléré cette fois-ci. Parce que tous ces phénomènes physico-chimiques se sont produits dans la nature. Si on prend par exemple un volcan, moi j'appelle ça un potier aveugle, qui lui font tout au passage. À la différence du volcan, le potier lui choisit. il choisit, il sélectionne, il ne met pas tout à la fois. Mais c'est toujours ce qu'il fabrique, ça n'est jamais que de la pierre, c'est de la lave. Un émail, c'est de la lave, mais qui n'est pas volcanique, parce qu'elle est le produit de minéraux qui sont sélectionnés.
Autrefois, l'artiste était très souvent, ce qui était considéré comme un artiste, c'est qu'il n'en avait pas le titre. Les lettrés pratiquaient la peinture pour leur propre plaisir. Donc, est-ce que c'était vraiment des artistes à part entière? Non. Il y avait une autre catégorie, c'était les artistes professionnels qui étaient donc au service de l'empereur, par exemple, qui travaillaient pour la cour. Là, les artistes avaient un certain statut. Les lettrés en avaient un autre, et actuellement, l'artiste a le même statut qu'en Europe, qu'en Occident.
Trois alliances conjointes, c'est vraiment une triple alliance. C'est une alliance avec la nature qui lui donne des minéraux et des lois, une alliance avec soi-même, parce que le potier doit mouiller sa chemise dans ce travail. Il faut qu'il s'investisse, ne serait-ce que dans des travaux de ménage, apparemment des travaux de ménage qui constituent une grande partie de son quotidien, c'est touiller, tamiser, broyer, à côté de l'élément calcul, agencement des minéraux, etc. Donc il doit faire un gros travail sur lui-même, et je ne parle pas du tournage, qui est une expérience extraordinaire. Tourner un pot, c'est vraiment un travail sur soi. C'est pas du tout un combat contre l'argile, c'est un véritable travail sur soi, parce que il faut d'abord communiquer son propre centre à l'argile pour qu'elle tourne rond. Il faut maîtriser ses propres énergies, il faut conjuguer, comme je le dis souvent, la fermeté et la douceur du geste, qui est quelque chose de tout à fait spécifique du tournage. Donc tout ça pour dire qu'il y a un travail sur soi qui est très important. Non seulement un travail sur ses ménages, sur ses possibilités de réflexion, mais aussi un travail sur son être physiologique, physique, musculaire, sur la manière de tenir son corps, sur la respiration. En quelque sorte, c'est une voix.
Il s'exprime, et à travers son expression, évidemment, on voit apparaître des pensées traditionnelles dont il est imprégné, ou des pensées naturalistes, vous pouvez les appeler comme vous voulez, ou taoïstes, ou zen, ou autres. Mais lui, souvent, n'en a pas conscience. L'artiste ne se dit pas « je vais transmettre quelque chose ». Il s'exprime, et il exprime sa pensée profonde qui est imprégnée de ces notions anciennes, parce que par son éducation, par ses lectures, évidemment, il est imprégné de toutes ces idées. Mais celui qui regarde l'œuvre peut apprécier l'œuvre sans connaître, évidemment, ces notions philosophiques.
De Lessines à la Louvière, de l'hôpital Notre-Dame à la Rose au centre Keramis. À Lessines, à l'hôpital Notre-Dame à la Rose, infiniment, jusqu'au 29 mars. Avec Raphaël De Bruyne, Laurent Quillet, Sophie Langor et Alain Bornard. Au centre Keramis, à la Louvière, Baiming, vibration de la Terre, jusqu'au 15 mars. Avec Christine Samitsou.
Je ne sais pas s'il veut transmettre un message, je ne pense pas qu'il veuille véritablement transmettre un message, mais on peut comprendre son travail avec, disons, tous ces éléments dont il est imprégné. Et en fait, il est l'incarnation d'une pensée chinoise ancienne, mais au prisme de l'Occident, puisque l'artiste est lui-même quelqu'un qui est ouvert sur l'Occident. Oui, un plasticien, un céramiste, un philosophe. Il est philosophe dans sa façon de vivre et dans ce qu'il veut traduire sur ses peintures ou dans ses œuvres. Et si vous voulez, c'est quelqu'un très respectueux de son environnement, très respectueux de la nature. Donc il met en pratique beaucoup d'éléments qui sont inspirés non seulement de la philosophie asiatique, mais aussi occidentale, puisqu'il il essaye de faire le lien dans sa vie quotidienne de tous ces éléments, de relier tous ces éléments entre eux. C'est quelqu'un qui domine la matière, qui domine les techniques et qui arrive à transmettre ses impressions profondes au travers de ces techniques.
Michel de Vichère et la voix de Daniel de Momola.
En quelque sorte, c'est une voix, comme diraient les Japonais en Do ou bien en Tao, comme diraient les Chinois. Le travail de la poterie peut se présenter comme une véritable voix.
De Lessines à la Louvière, de l'hôpital Notre-Dame à la Rose, au centre Keramis, par Thierry Genico.
J'espère que les gens qui visiteront l'exposition auront le même choc et la même impression en voyant ces pièces-là que lorsqu'ils voient ou qu'ils ont un choc devant une peinture occidentale à l'huile. C'est pour moi du même ressort. On peut avoir un choc devant une porcelaine peinte comme un choc devant une peinture occidentale. On n'a pas besoin d'avoir le contexte. Si on l'a, ben c'est un plus, ça permet d'essayer de comprendre, d'analyser. Mais est-ce qu'on a besoin d'analyser pour apprécier une œuvre d'art? Je n'en suis pas sûr.
Le Monde Invisible est soutenu par la Fédération Wallonie-Bruxelles, secteur des arts plastiques.